je viens d'un pays où les femmes sont vues comme des personnes inférieures. J'ai jamais vécu ces privilèges dont on parle ici à Occident et je suis considérée comme une femme privilégiée dans les débats féministes. Il suffit d'être une femme, ça suffit.
Leur philo. Leur philo jusqu'à 21h. Karen Day est à la réalisation, Chantal Le Montagne à la préparation, Djoubaka choisit les disques, Henri Bérec est aux manettes. Fabienne Brugère est ce soir notre invitée. Elle est professeure de philosophie féministe et d'esthétique à Paris 8 et elle co-signe un livre intitulé Le peuple des femmes.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
Ce qu'on fait, c'est on retire nos t-shirts, on utilise nos corps comme des pancartes politiques, on écrit nos slogans sur nos corps et on crie les slogans. Point. Rien d'autre. Et pour ces actes-là, on a dû subir des violences, on était torturés, on était arrêtés, je suis exilée. On a réussi de tomber les masques des autorités, des institutions qui ne supportent pas d'entendre les voix féminines en protestation et qui ne supportent pas de voir les corps féminines qui ne sont pas sexualisés mais politisés.
C'était la féminine Inna Shevchenko. Elle est ukrainienne, en exil en France. Donc, nous pensons d'ailleurs à toutes les femmes d'Ukraine ou d'ailleurs, en lutte contre la folie des hommes. Bonsoir Fabienne Brugère.
Bonsoir Patricia Martin.
Quand ça se passe mal, pour une raison ou pour une autre, les femmes sont toujours en première ligne?
Oui, les femmes sont toujours en première ligne parce que c'est elles qui exercent la majeure partie des activités dans la vie quotidienne. C'est elles qui s'occupent des enfants, ce sont elles qui s'occupent de la maison, ce sont elles aussi qui vont chercher l'eau dans un certain nombre de pays, ce sont elles qui se soucient aussi des arbres contre la déforestation dans d'autres pays comme l'Inde. Elles sont donc toujours en première ligne parce qu'elles ont toujours en charge les petits actes quotidiens qui organisent les vies des individus et les vies de nos sociétés sans qu'on les voit pour autant, parce qu'elles sont en même temps toujours aussi invisibilisées. Mais comme l'ont montré un certain nombre d'auteurs et surtout d'autrices depuis un certain nombre d'années, et je pense en particulier aux travaux de Silvia Federici, les femmes sont celles qui ont en charge ce que l'on appelle la reproduction sociale. C'est elles qui ont en charge la force de la vie, puisque c'est elles qui procréent, puisque c'est elles ensuite qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de la maison, qui nourrissent souvent les populations. Et elles sont en ce sens-là en première ligne, même si généralement, pour cela, en même temps, on ne les voit pas, alors qu'elles sont toujours là, justement.
Fabienne Brugère, vous publiez donc ce livre, Le peuple des femmes, un tour du monde féministe. C'est un livre co-écrit. Là, je voudrais le dire, vraiment, on va insister dessus, parce que pour tous les hommes qui sont en train de nous écouter, qui disent encore une histoire de féministe, non, c'est pas que ça, ça vous concerne aussi, figurez-vous. De toute façon, le féminisme regarde tout le monde. C'est un livre co-écrit avec Guillaume Leblanc, qui est professeur, lui, de philosophie sociale et politique. C'est un livre à deux voix, à deux esprits, à quatre mains. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par le peuple, qu'est-ce que vous entendez par le peuple des femmes? C'est une façon de faire peuple, d'être ensemble autrement?
Alors c'est d'abord une provocation, parce que le peuple, il est souvent lié aux hommes, il est souvent lié au masculin. C'est d'abord une provocation, dans la mesure, effectivement, où ce peuple n'est ni le peuple au sens, disons, social de ce qu'on peut appeler la plèbe, la populace, quand on dit le peuple, la classe inférieure pour beaucoup, cette classe désordonnée, un peu dominée, le peuple aussi, dans l'histoire de la philosophie, c'est la souveraineté du peuple, c'est l'invention de Rousseau, cet acte par lequel des individus contractent ensemble et mettent au point la volonté générale. Mais c'est pas ça non plus. Et c'est pas non plus le sens ethnologique, le peuple français, le peuple anglais. Il s'agit bien évidemment d'autre chose. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout d'abord d'un peuple, le peuple des femmes, qui est un peuple empêché. On peut donner quelques scènes de cet empêchement. La chasse aux sorcières entre le XIVe et le XVIIe siècle, où les femmes sont considérées comme des incarnations du diable. Ce sont souvent ces femmes paysannes, pauvres, qui vivent finalement assez librement et que l'on va pourchasser, persécuter, assassiner. Ce peuple empêché, c'est encore après, en 1794, ces tricoteuses pendant la convention qu'on ne veut pas écouter.
Les enragés, puis ensuite c'était les furies de la guillotine.
Voilà, exactement. Et puis, si on remonte encore
d'ailleurs, il faut quand même dire aussi que les femmes ont été exclues des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Elles ont été exclues de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elles ont encore été exclues en France du suffrage universel de 1848, qui en ce sens-là n'est pas un suffrage universel. Et puis, ce peuple empêché des femmes, c'est encore 2007 et 2017, les différents moments de MeToo et tous ces harcèlements, ces viols et ces attaques contre les corps des femmes.
Et puis quand les femmes se réunissent, enfin sont en assemblée, on n'aime pas ça, ça fait peur, c'est dangereux.
Ah ben bien sûr, quand les femmes sont en assemblée, ça fait peur parce qu'elles parlent, parce qu'elles construisent quelque chose, parce qu'elles expriment leur domination, elles se rendent compte que les oppressions se ressemblent, donc c'est quelque chose qui est tout de suite expérimenté comme un danger. Et donc, ce peuple-là, forcément, il a toujours été empêché. Il est aussi, on pourrait dire, un peuple manquant. Ce peuple manquant, on pourrait en donner deux exemples. Ce sont ces femmes, actuellement, qui ne naissent pas en Inde ou en Chine, parce que précisément il faut des garçons, d'où des avortements, d'où des médicaments quand on sait qu'on attend précisément une fille. Et puis ce sont aussi les féminicides, les assassinats de femmes justement dans les couples, mais les assassinats aussi de femmes parce qu'elles sont des femmes dans la rue. Donc c'est également un peuple manquant. Et quand ils se rassemblent, eh bien c'est un peuple qui effraie, parce que précisément il ne rentre pas dans les cadres de ce que l'on appelle généralement un peuple.
Delphine Seyrig, vous la connaissez, actrice, réalisatrice, comédienne de théâtre, une des figures du féminisme en France, c'était en 1972, et elle parlait, tiens donc, du bonheur des femmes.
La question de bonheur, alors parlons-en, les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le mariage est une forme de, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison, c'est la femme. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles.
De là vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de libération des femmes et qui n'est pas sympathique. Et ça vient peut-être de là.
Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique.
C'est incroyable, je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. Delphine Seyrig, il y a donc 50 ans de cela, des propos assez radicaux, en tout cas c'est ce que penseront certains, j'imagine. Est-ce que vous pensez, Fabienne Brugère, que ça a un petit peu, je parle en France, en Europe, dans les pays, disons, occidentaux, disons, en Europe. Est-ce que ça a un peu bougé malgré tout?
Alors, je crois qu'en tout cas, ce qu'exprime Delphine Seyrig, c'est la colère. Et je pense que cette colère...
Très grande colère. Hein,
très grande colère. Et cette profonde colère, elle demeure. Elle s'est exprimée dernièrement dans le mouvement MeToo, mais dans d'autres aussi mouvements féministes en Amérique du Sud ou ailleurs. Donc cette colère, elle demeure. Et cette colère, elle est liée à ce qu'on pourrait appeler une sensibilité féministe. C'est-à-dire que tout d'un coup, les femmes nomment, elles prononcent vraiment ce qu'elles ont à reprocher aux hommes, et puis elles dénoncent. Et c'est ça, Delphine Seyrig dénonce. Cette dénonciation, je pense qu'elle existe, toujours. Alors, est-ce que les choses ont un petit peu bougé? Oui. Oui, malgré tout, déjà, par le fait même qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien de choquant dans le fait de parler de travail domestique. Je crois qu'il y a 50 ans, quand on parlait du travail gratuit des femmes, ça choquait encore, parce qu'on considérait que ce n'était pas un travail. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, le terme de travail est largement accepté. Et d'ailleurs, si on prend les mouvements féministes des dernières années, par exemple, la grève des femmes en Suisse en juin 2019, elle est largement structurée par l'idée du travail gratuit des femmes.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, les femmes ont cessé de travailler en disant on veut un salaire égal à celui des hommes, donc maintenant.
Non seulement on veut dans l'activité salariée et ce qui est communément appelé travail, on veut un salaire équivalent des hommes, mais on veut aussi que dans le domaine du travail gratuit, celui qui est fait à la maison, eh bien, soit il y ait un salaire, soit il y ait un partage des tâches entre les hommes et les femmes, ou entre les deux, ou entre les deux parents. Et vraiment, ce qui apparaît de manière radicale dans la nouvelle génération des féministes, c'est ce terme de travail qui concerne dorénavant ce que l'on appelait avant la sphère privée, dont on sait très bien qu'elle n'est pas une sphère privée, selon ce fameux slogan qu'on trouve déjà dans les années 70 et qui vient au départ des États-Unis, « The personal is political », le personnel est politique.
Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'heure philo, elle est malienne. On la considère comme une ambassadrice du Wassoulou, cette région du Mali, à cheval sur la Guinée et la Côte d'Ivoire. Oumour Sangaré.
di dunung dongge kadongge jagbawara dongge kadongge kakuku dongge kadongge kamarengoni dongge india lene ye wasolonga ini wadale ne ma tulunde wo
india lene ye pega ma wadale ne ma
india lene wasolonga ini wadale ama tulunde sa wasolonga
Le Wasulu, Fabienne Brugère, c'est un empire éphémère de l'Afrique de l'Ouest. Hein. C'était à la fin du, avant la fin du 19e siècle, avant la colonisation. Et la colonisation, c'est au fond une double peine pour les femmes. Ça a été une c'est toujours une double peine dans certains endroits du monde.
Oui, c'est une double peine pour les femmes parce qu'on peut rappeler que lorsque l'administration coloniale s'est constituée dans un certain nombre de pays, elle a oublié les femmes, c'est-à-dire qu'elle a eu pour interlocuteurs les hommes. Les femmes ont été laissées dans l'ombre, alors que c'était pourtant elles qui généralement s'occupaient des terres, qui étaient des agricultrices dans bon nombre de pays. Donc c'est effectivement, pourrait-on dire, un double effacement. Un effacement parce qu'elles sont des femmes, mais un effacement aussi parce qu'elles sont des femmes de couleur ou des femmes colonisées. Et donc il est intéressant de pouvoir entendre cette souffrance des femmes et ces violences, on pourrait dire multiples, faites aux femmes à divers titres, en quelque sorte.
Et qui passe souvent par la voix des femmes. Et dans votre livre, Le peuple des femmes, vous parlez du chant des femmes, notamment en Afrique, ces chants qui se font particulièrement entendre le 8 mars, donc Journée internationale des droits des femmes, où elles s'emparent, tout particulièrement cette occasion, des instruments des hommes.
Oui, il y a en particulier cette chanson incroyable des Amazones d'Afrique, I play the kora. La kora, c'est en fait un instrument qui est réservé aux hommes au Mali. Et lorsque les femmes s'en saisissent et lorsqu'elles portent ces chants-là, forcément, c'est une subversion. C'est une subversion du patriarcat. Et c'est une manière de chanter le féminisme, de rendre le mouvement féminisme aussi joyeux et de porter des voix. Et c'est vraiment l'une des idées fortes du livre, c'est comment ce qui constitue aujourd'hui un féminisme de mouvement se structure à travers des voix dans le monde, qui sont généralement des voix de femmes, mais qui peuvent aussi être des voix comme celle de Guillaume Leblanc, des alliés du féminisme, et d'autres co-auteurs. Le chant, c'est comme la voix, c'est la possibilité de la libération de l'oppression. On pourrait dire que d'un côté les chants sont cathartiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire sortir de soi la violence que l'on subit, mais plus encore, ils peuvent être émancipateurs. Et précisément lorsque les Amazones d'Afrique chante et dénonce l'excision et donc ces violences faites aux femmes, qui sont d'ailleurs souvent faites par les femmes elles-mêmes. Hein. Ce sont les mères, les tantes, les sœurs qui emmènent précisément vers l'excision. Ces chants sont justement une possibilité de dénoncer ces violences et d'amorcer le mouvement de libération de l'oppression. Ce sont aussi ce sont aussi des manières, par la voix, je dirais, de faire que l'esprit et le corps se rencontrent. Parce que la voix, c'est à la fois précisément le timbre d'un corps.
Et le corps, vous en parlez beaucoup. Le corps des femmes a finalement beaucoup plus d'importance dans l'histoire du monde que le corps des hommes.
C'est-à-dire que...
Il y a beaucoup plus de choses qui passent par le corps des femmes.
Exact. Et on le sait finalement depuis un certain nombre de textes, hein, déjà dès le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, les femmes ont toujours été assignées à la nature, donc elles ont toujours été assignées à leur corps, parce que le corps des femmes, c'est à la fois le corps reproductif, le corps de la maternité, mais c'est aussi le corps qui est l'objet du désir des hommes, qui donc veut être contrôlé par les hommes. Donc le corps des femmes, il est fondamental. Il est fondamental et on peut dire que dans le féminisme, il y a un retournement du corps, parce que le corps contrôlé par les hommes, que les hommes veulent contrôler, devient un corps politique et dessine la possibilité d'une libération. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure à travers la voix des fémènes. Comment précisément le corps dénudé n'est plus le corps soumis au désir, mais devient le corps politique sur lequel on inscrit précisément des slogans.
Jacques Derrida, c'était en 1996, et voici la façon dont il considère la cause des femmes.
La cause des femmes, si je peux sans démagogie en parler très vite, je la mettrai sous le titre de l'émancipation. Il y a eu d'énormes progrès, mais on assiste aujourd'hui, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais on assiste aujourd'hui à une régression ou une stagnation dans la lutte pour la libération des femmes, pour ça comme ça. Moi, je ne renie pas ces mots, pour la libération et l'émancipation des femmes. Et ça demande, partout dans le monde, mais aussi dans ce pays, ça demande une vigilance et un combat quotidien. Ce sont les révolutions. Ce qui est en train de se passer plus ou moins bien, plus ou moins vite, avec des régressions au sujet des femmes, c'est de l'ordre de la révolution. Et c'est une révolution aussi importante, même si elle ne se date pas de la même manière que ce qu'on appelait révolution 89, 48 ou 17. Donc moi, je tiens à garder ces vieux mots comme des mots tout neufs. Émancipation, révolution, libération.
Combat quotidien, Fabienne Brugère, histoire un peu aussi en dents de scie, avec des avancées, et parfois de belles promesses qui sont vite retombées. Vous parlez, à titre d'exemple, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans votre livre, d'un mouvement qui a eu lieu en Angleterre, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était en 1968, où des machinistes couturières qui travaillaient pour Ford se sont révoltées. Et puis il y a eu comme ça une flambée et la promesse est retombée quelques années plus tard en 2011.
Oui, c'est de toute façon le mouvement de libération des femmes, on pourrait dire qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des avancées, que rien n'est jamais acquis. Et j'aime bien la manière dont Jacques Derrida dans ce texte nous dit il faut garder les mots d'émancipation, de révolution, de libération, parce que précisément ces vieux mots, on espère bien qu'ils vont réussir à dire ce qu'il en sera un jour ou l'autre de la situation des femmes. Alors le Derrida, ce petit morceau de voix de Derrida, c'est en 1996. Je crois qu'on peut dire que les années 80, les années 90 sont d'une certaine manière des moments de stagnation dans les droits des femmes. C'est le moment où on croit beaucoup à un féminisme d'État, à des politiques publiques qui finalement sont essentielles, mais qui vont s'avérer assez fragiles et puis pas tant porteuses que ça de progrès. Et donc, je crois que c'est ce dont il parle. Je crois qu'il faut attendre après les années 2000, les années 2010, 2020, pour que se noue cette fois-ci la possibilité d'un féminisme de mouvement. Une capacité aussi des femmes à s'organiser collectivement, à porter des messages, à dire leur oppression, à réclamer justement une justice de genre et une égalité.
Oui, une justice de genre, mais le peuple des femmes, pour reprendre donc votre expression, ne se constitue pas de façon, enfin juridiquement en fait.
Oui, Ben, c'est-à-dire que le peuple des femmes se constitue dans la rue, dans les occupations de place, il se constitue dans des assemblées, dans des grèves, qui sont des grèves féministes et qui concernent donc aussi non seulement la grève à l'usine, mais précisément la grève à la maison. Et donc, d'une certaine manière, le féminisme, aujourd'hui, c'est un féminisme, on pourrait dire, bruyant, qui circule. C'est un féminisme aussi des réseaux sociaux. Donc, en ce sens-là...
Qui ont beaucoup fait, ça, vous en
parlez. Ah oui, le féminisme, grâce aux réseaux sociaux, on peut dire qu'il est viral, on peut dire qu'il est contagieux, on peut dire qu'il se transporte, qu'il circule, et que c'est aussi ce qui produit son caractère transnational.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, enfin, une sorte de collectif, la possibilité d'un collectif entre des femmes, évidemment, qui sont diverses et variées, avec des minorités très dissemblables? Est-ce qu'on peut, avec une identité qui est, ça aussi vous le montrez dans votre essai, qui est plurielle, qui est multiculturelle, qui est intersectionnelle, est-ce qu'on peut imaginer un collectif possible au milieu de tout ça, et une solidarité, voire même une sororité, pour reprendre le terme employé dans un très beau livre par Chloé Delhomme?
Ben, je crois qu'il faut repartir de la situation des femmes dans le monde. La situation des femmes dans le monde aujourd'hui, c'est que globalement, plus de 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Donc, il y a globalement quelque chose de commun à de très nombreuses femmes, c'est la vulnérabilité ou la précarité ou la pauvreté. Et donc, des femmes de situations diverses peuvent déjà se retrouver autour de cette idée, finalement, de politique, pourrait-on dire, de la vulnérabilité, pour reprendre en ce sens les propos de Judith Butler, et l'idée que enfin on va assumer la vulnérabilité et on va demander à compter. Donc il y a ce mouvement très fort, nous ne comptons pas et désormais nous voulons compter. Et puis ensuite, il y a malgré toutes les formes de diversité et malgré les différences bien sûr de situation, il y a bien une universalité de l'oppression des femmes dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures qui crée précisément la possibilité d'une sororité.
Il n'y a pas de civilisation au monde sans domination de la part des hommes sur les femmes.
Alors il y a des sociétés à certains points du monde, dans l'histoire, on pourrait d'ailleurs penser aux béguines au XIIe siècle, hein, qui sont finalement des hétérodoxes chrétiennes qui vont s'organiser socialement, entre elles-mêmes. Il y a ce que l'on appelle des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire des sociétés où précisément ce sont les femmes, par exemple, qui transmettent le nom. Ce sont les femmes qui en tout cas détiennent une part du pouvoir. Et ça a été analysé par un certain nombre d'anthropologues. Et il y a partout dans le monde, comme ça, quelques sociétés matrilinéaires. Il y a aussi des villages. On peut citer, par exemple, le village de Jinwar dans le Kurdistan syrien. On peut citer aussi le village de Tumia au Kenya. Ce sont des villages qui s'organisent entre femmes.
Des cités, presque des cités fermées.
Voilà,
fermées
des, cités,
hommes,
en fait. Des cités fermées. Et donc, ce modèle des cités, nous l'avons analysé dans le livre, hein, avec Guillaume Leblanc, à partir d'ailleurs d'un clin d'œil au superbe film de Fellini,
La Cité des Femmes.
La Cité des Femmes. Et ce sont bien l'un des parcours possibles du féminisme qui tient dans la séparation, dans ce que j'appellerais à un moment ou un autre la nécessité de la séparation. C'est-à-dire, quand un cadre devient vivable, et dans le cas du village de Jinwar au Kurdistan syrien, les femmes qui se retrouvent là, c'est soit des femmes qui ont été des guerrières des Kurdes, contre Daesh, soit ce sont des femmes qui ont été excisées, soit ce sont des femmes qui ont été battues, soit ce sont des femmes qui se sont retrouvées abandonnées avec des enfants. Donc elles constituent un village avec ses propres règles où la construction du village, elle se fait vraiment conformément aux femmes. Et c'est une séparation qui est imposée par un cadre de vie qui devient insupportable, qui devient invivable.
Virginie Despentes, c'était en 2019.
J'ai l'impression que pour l'instant, les femmes, on est en train de se parler entre nous de ce qui nous arrive pour la première fois et d'établir aussi des liens de solidarité. MeToo a changé ça, d'être capable de se dire les unes aux autres, moi je te crois, moi je suis avec toi et moi je t'écoute. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les hommes, en tout cas les hommes de pouvoir, écoutent beaucoup ce qui est dit. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de s'agacer de ce que ça dure un peu longtemps. Et donc sortir du silence, c'est une première étape. On est désolé si la première chose qu'on a à dire, c'est par exemple, on a été violé, massivement, on a été agressé, massivement, on a été battu, massivement, on a été humilié, et massivement, c'est un problème d'être dans l'espace public, d'aller travailler, parce que les hommes considèrent toujours que les femmes sont en gros des espèces d'agréments à droite à gauche dans lesquels on tape quand on en a envie.
Les choses n'ont pas changé, Virginie.
J'ai pas l'impression qu'elles changent si vite que ça. Elles changeront. Elles peuvent changer. J'ai jamais été autant en colère contre les hommes parce que je trouve qu'ils manquent d'envie et d'appétence pour rentrer en dialogue avec nous et se dire évidemment que votre lutte c'est la nôtre.
Et vous, Fabienne Brugère, est-ce que vous êtes en pétard contre les hommes?
Je suis en pétard contre le système patriarcal. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la manière dont les féminismes ces dernières années ont repris le terme de patriarcat. Parce qu'il y a bien une universalité du patriarcat. Et il y a bien, on pourrait dire, une universalité négative, ouais, des violences contre les femmes, harcèlement, viol, assassinat et j'en passe. Donc je suis aussi en pétard et je pense là-dessus aux variantes de MeToo, par exemple au Sénégal ou au Maroc, où la formule est devenue « je ne me tairai pas ». Je crois que c'est ça aussi actuellement qui est vraiment très fort, c'est qu'être en pétard mène à la prise de parole. Et dans la prise de parole, il y a une prise, non pas de pouvoir, mais il y a une prise de puissance. Et cette prise de parole, je crois qu'elle est très importante aujourd'hui. Et Virginie Despentes en est bien sûr
elle dit, faut
une
se casser,
incarnation.
Hein, il faut se casser, il faut sortir de l'institution.
Oui.
Enfin, elle est, bon, là encore, elle transgresse. Hein.
C'est-à-dire que, en fait, nous, on a d'ailleurs beaucoup réfléchi à partir du texte de Virginie Despentes qui a été publié presque le lendemain de la cérémonie des Césars, de ce moment où Adèle Haenel et d'autres sortent
c'est
en claquant la porte.
Sorti, oui.
Et ce qu'on a
parce
fait
que
dans...
Roman Polanski, enfin, il faut le
voilà parce que Roman Polanski obtient le César du meilleur réalisateur, alors précisément qu'il a été accusé de viol. Et donc nous on a vraiment réfléchi à partir de cela et dans cette perspective l'analyse du féminisme de mouvement que l'on a fait dans le livre, on l'a repensé à partir des catégories d'Albert Hirschman, qui est un économiste américain qui a beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux et qui explique dans un livre, Défection et prise de parole, qu'il y a plusieurs manières de se rapporter à un produit et qu'on peut ramener ça d'ailleurs à la question des mouvements sociaux, soit on est loyal, soit on est dans la défection, c'est-à-dire qu'on claque la porte, on ne veut plus de ce produit, soit on est dans la prise de voix, la dénonciation et on parle.
Mais là, justement, vous parlez de la loyauté, vous dites en étant loyal, les femmes ont été loyales depuis toujours finalement.
Bien sûr, les femmes ont été loyales depuis toujours et ça leur a beaucoup coûté. Elles ont
Mais il y a de nouvelles loyautés
loyales.
Donc.
Alors les nouvelles loyautés, c'est à comprendre vraiment comme une invention par rapport à Hirschman. Ce qu'on a repris donc d'Hirschman, c'est le fait de claquer la porte. C'est la défection, c'est le fait de sortir du cadre. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le moment de la séparation dans le féminisme. Et le moment de la séparation, il mène souvent à autre chose. Et il mène justement à la prise de voix, c'est-à-dire à la voice, et donc à la possibilité justement de dénoncer un message politique. Mais nous sommes allés plus loin et nous sommes dit que, alors que les femmes ont été longtemps loyales à l'égard des hommes, et ça leur a pas rapporté grand-chose, elles sont maintenant loyales à l'égard d'elles-mêmes. Et qu'est-ce que c'est qu'être loyal à l'égard de soi-même pour les femmes? C'est précisément pouvoir porter un certain rapport au féminisme qui passe d'une part par le rapport à la vie, par le rapport à la terre, c'est-à-dire que les femmes développent des discours du soin de la terre, et ça c'est particulièrement vrai dans les économies du Sud et dans les féminismes du Sud, où précisément les femmes sont souvent celles qui portent les économies de la subsistance et qui portent le rapport à la terre et qui en appellent aujourd'hui contre toutes les formes d'extractivisme, justement capitaliste, contre par exemple la déforestation, qui en appelle à un respect des sols, à un retour à la terre vivante.
Mais justement, Fabienne Brugère, je voudrais vous faire entendre Françoise Daubonne, que vous connaissez bien, qui est une pionnière de l'écoféminisme, et c'était en 1972, donc c'était pas hier.
Tout pouvoir est mauvais entre les mains de qui que ce soit. Et cela
a été prouvé. Pourquoi le prendre ?
Le prendre pour le détruire, parce qu'on ne peut pas détruire ce qui ne vous appartient pas. Parce qu'elle a dit, on a pris un jour la décision de mettre la force entre les mains de la justice. Mais la force entre les mains de la justice, c'est pas possible, car c'est une chose qui ne se laisse pas manier. Alors, dit-il, on a pris la justice et on l'a mis entre les mains de la force. Et ben, c'est justement ça, cette iniquité contre laquelle maintenant nous nous révoltons et dont nous ne voulons plus. La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence. Si cette société mâle et industrielle continue, il est temps que la planète redevienne verte. Et ne serait-ce que pour cela, et j'ai bien d'autres raisons de le penser, mais ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. Et à partir du moment où les êtres seront égaux, il n'est pas question que les femmes détruisent les hommes, c'est une bêtise. Il n'est question que de reprendre le pouvoir à ceux qui en ont fait ce que nous voyons, qui ont détruit la planète, qui ont fait de la démographie, de la procréation, ce fléau qui maintenant menace l'humanité elle-même. Et à partir du moment où nous aurons la possibilité d'arrêter tout ça, eh bien le pouvoir, nous n'en aurons plus besoin, nous l'enverrons promener et tout le monde aura le pouvoir parce que ce sera l'autogestion générale.
Voilà, Françoise Daubonne, donc une nouvelle loyauté écologique en quelque sorte, Fabienne Brugère.
Oui, les mâles détruisent. Ils détruisent les vies des femmes par la violence et ils détruisent aussi la vie des sols, la vie de la terre par l'extractivisme capitaliste. Et ce qui est très intéressant dans le petit passage de Françoise Daubonne, c'est qu'elle parle de la nécessité de quitter le pouvoir. Et ça, c'est particulièrement important en termes féministes et en termes d'écoféminisme. Ça veut dire sortir des rapports de pouvoir avec tout ce qu'il y a de dominant et de dominé et de pouvoir institué pour inaugurer une puissance d'agir, pour inaugurer une relation au monde qui passe par un rapport très fort à l'existence. Et d'une certaine manière, c'est comme ça que nous, en tout cas, nous l'avons lu, ce passage du pouvoir à la puissance, que l'on trouve d'ailleurs chez une auteure écoféministe comme Sarwa, qui dit qu'il faut passer du pouvoir sur au pouvoir dedans, c'est ce qui dit puissance. C'est aussi une réactualisation de la philosophie de Spinoza. Quand Spinoza nous dit qu'il y a d'un côté potestas, le pouvoir, et il y a de l'autre potentia, la puissance. Et donc là, le féminisme, c'est une logique de puissance, et c'est ce qu'on retrouve en particulier dans le titre très fort du livre de Véronica Gago, La puissance féministe. Mmh.
Louise Bourgeois, c'est l'artiste plasticienne que l'on connaît, franco-américaine, mondialement connue, et elle a aussi chanté une performance féministe, c'est un slam.
C'est ça.
La femme de l'anglo est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse. Et elle boursicote. Il cuisine. Et puis elle popote. C'est ça. Il découvre, par exemple, il découvre un vaccin. Il découvre et elle dégote. C'est ça. Il parle, elle parlotte. Alors, il tousse, puis elle toussote. Et alors, quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle. Et puis elle sifflote. Et alors, on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle sifflote.
Ça ne s'invente pas. Louise Bourgeois, c'est formidable. Bourgeois. Je m'en lasse pas. Moi, je l'ai écouté 20 fois chez moi avant de venir ici. Je trouve ça extraordinaire. Quand vous écrivez, Fabienne Brugière, que vous êtes l'alliée des femmes, ça signifie quoi?
L'alliée des femmes? Alors, l'alliée des femmes, je pense que ça vaut surtout pour Guillaume Leblanc.
C'est-à-dire vous aussi, que... vous le dites.
Oui, mais...
Ça ne signifie pas la même chose pour l'un et pour l'autre.
C'est important peut-être de le replacer par rapport aux deux. Quand Guillaume Leblanc dit ça, bien sûr, ce qu'il dit, c'est que cette cause, elle est pour lui fondamentale, qu'il la rallie, qu'il la comprend, mais qu'il ne saurait pas se substituer à la voix des femmes.
Et puis qu'il a choisi aussi une façon d'être un homme, puisque comme dit c'est Yvan Jablonka, qui a cette il y a mille façons d'être un homme. Hein, on peut.
Alors il y a aussi cette question chez nous vraiment dans le texte de sur le genre, que le genre certes il est solide mais il est aussi fluide. Et donc il y a mille façons aussi d'être un homme, tout comme il y a mille façons d'être une femme. Donc si vous voulez, dans le combat féminisme, on ne peut jamais penser une voix des femmes. On va toujours penser des voix, on va toujours penser des expériences et des situations.
Ouais. Mais alors, ce sur quoi je voudrais revenir, parce que c'est important et que vous montrez bien aussi dans cet essai, donc co-écrit avec Guillaume Leblanc, c'est qu'en fait, vous parlez d'un univers en expansion. On pourrait penser, quand vous dites un tour du monde féministe, on peut penser évidemment au tour du monde en 80 jours de Jules Verne, mais qui lui est assez masculin, plutôt masculin, mais qui a un début et une fin. Et vous ne voyez pas du tout les choses comme ça.
Ah non, parce qu'en fait, le féminisme, il est en expansion et il est en train d'écrire son histoire. Et d'ailleurs, au début du livre, quand on fait cette cartographie des mouvements féministes dans le monde, on dit bien que c'est une carte qui commence juste à s'écrire et qu'il faudra que d'autres continuent aussi à la remplir. Et puis, il est en expansion également parce que de toute façon, on est aussi dans un contexte de plaques tectoniques, c'est-à-dire que le féminisme s'accroît, il y a des voix, il y a des amplifications, mais il y a aussi des contre-révolutions. Il y a justement des voix qui appellent à un retour à l'ordre binaire du genre. Donc tout est en train de s'écrire quelque part.
Mais est-ce que vous pensez qu'on arrivera à dépasser tout ça, à reconsidérer ça autrement? Et quand vous dites par exemple que votre livre a produit un yel, alors ça c'est quelque chose dont on parle, c'est-à-dire vous parlez de fluidité. Est-ce qu'il pourrait y avoir une indétermination finalement entre les sexes? Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce que vous pensez que c'est ce vers quoi nous tendons?
Ben, je crois qu'en tout cas, ce qui est important dans l'humanité, c'est de pouvoir tendre vers le fait de devenir un individu. Et devenir un individu, eh bien, ça va très bien avec cette idée d'une combinatoire du genre. Et quand Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient », ça veut dire que précisément, il n'y a pas de destin biologique. Mmh. Que le destin, il se construit et qu'on peut justement le déjouer.
Vous me l'apportez sur un plateau. La Simone de Beauvoir, c'était en 1949.
Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité. Je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc. etc. Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple, il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. C'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
Vous parlez de Simone de Beauvoir dans ce livre, Fabienne de Brugère. J'imagine que Guillaume Leblanc a aussi lu Simone de Beauvoir et Le deuxième sexe. Vous l'avez découvert alors que vous aviez 17 ans.
Oui, c'est un livre fondamental. Quand je lis le deuxième sexe à 17 ans, je me dis que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Et que c'est encore vrai bien après 1949, avec cette fin très optimiste en même temps de la possibilité de la libération et cette idée que l'avenir demeure largement ouvert. Le féminisme, c'est ça, c'est la perspective des luttes parce que l'avenir doit demeurer ouvert et qu'il doit demeurer ouvert contre toutes les formes d'oppression et de ce point de vue-là, pas seulement l'oppression des femmes, mais l'oppression de toutes les populations subalternisées, les personnes trans, mais aussi les grands états de vulnérabilité, de pauvreté. Donc c'est un livre fondamental sur l'oppression et comment sortir de l'oppression.
Et le deuxième sexe, ras-le-bol, quoi. Et le fait d'être numéro 2 sur la carte de sécurité sociale, pourquoi est-ce
que
ça changerait
pas ? Ah oui, ça c'est quelque chose enfin, que
ce serait, à mon avis, très très compliqué si tout à coup, c'était les hommes qui portaient...
Mais il y a un très bon livre là-dessus. Mmh. C'est Les filles d'Egali, qui vient d'ailleurs d'être traduit en français alors que c'est un livre des années 70. Livre dans lequel, précisément, l'ordre est totalement inversé. Et ce sont les hommes qui portent ce que l'auteur appelle des soutiens-verges.
Mais au fond, enfin, c'est peut-être une question complètement idiote et très naïve que je vais vous poser, mais pourquoi les hommes sont-ils, enfin certains hommes, sont-ils aussi misogynes?
Parce que le système incite à la misogynie, parce que aussi, sans doute, les hommes ont peur des femmes. Et que je crois fondamentalement, et là je rejoindrai les analyses de Françoise Héritier, que la possibilité ou la capacité reproductrice des femmes crée des formes de panique
et de compétition, un peu comme chez les animaux.
Oui, et une volonté de contrôle du corps des femmes. Et puis après, toutes les sociétés ont malheureusement tendance à s'organiser autour de formes de supériorité et de formes d'infériorité.
Donc il faudrait pouvoir dire on ne naît pas homme, on le devient, d'une certaine manière.
De la même manière.
Puisque, a priori, on est homme, on ne le devient pas. En tout cas, dans notre société telle qu'elle fonctionne.
À ceci près, bien évidemment, que c'est beaucoup plus facile de devenir un homme que de devenir une femme.
Et en fait, il y a aussi une chose, et je trouve que votre livre pour ça amène à forcément à reconsidérer les choses, c'est que il peut y avoir dans certains cas, hein, je parle avec des pincettes, mais on peut consentir à un certain ordre qui est donc masculin sans même s'en rendre compte.
Ben oui, parce que dans toute société, il y a des rapports sociaux, il y a des habitus qui sont du registre d'une acquisition qui est tellement habituelle qu'elle devient inconsciente. Et donc, de manière très générale, ce sont les femmes qui apportent le café, et c'est quelque chose que nous ne voyons même pas, parce que c'est complètement incorporé, nous l'avons complètement acquis.
Alors j'imagine, Fabienne Brugère, qu'au cours de ce tour du monde que vous avez fait vous-même avant de nous le faire partager, au cours duquel donc vous avez pris énormément d'exemples qui étayent votre pensée, c'est aussi une forme de travail anthropologique presque qui a été le vôtre, et pas d'ethnologue, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un mouvement, une des personnes, que sais-je, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné?
L'Argentine, parce que c'est un pays où les luttes féministes montrent combien ce féminisme de mouvement est un processus qui dure à travers le temps. Le féminisme.
L'Argentine, qui est un pays absolument terrible sur le plan notamment des féminicides.
Oui,
hein, ça aussi.
Ah ben oui, il y a un féminicide. Ils sont en haut, c'est toutes les 30 heures. En Argentine.
Et c'était moins il n'y a pas si longtemps.
Et d'ailleurs, quand Ni Una Menos se crée en 2015, donc pas une de moins, c'est précisément autour des violences faites aux femmes et à partir des féminicides. Mais l'Argentine, c'est particulièrement intéressant parce qu'on commence avec les femmes de la place de Mai pendant la dictature, celles qu'on a appelées d'ailleurs les folles de la place de Mai, qui ont des foulards blancs qui sont en vérité des couches en tissu qu'elles mettent sur leur tête, elles viennent défiler toutes les semaines. Et ça se poursuit après avec des mouvements contre, justement, pour la libéralisation de l'avortement, contre les féminicides, avec Ni Una Menos, donc 2015, après les grèves féministes en 2016. Donc il y a tout un processus qui va de la question des mères qui pleurent la disparition de leurs fils à ces femmes qui viennent dénoncer les violences faites aux femmes.
Avec beaucoup de persévérance et en prenant énormément de risques, bien sûr.
Oui, et avec des foulards verts qui font toute la couleur incroyable de toutes les marches et de toutes les occupations de place qui ont eu lieu ces dernières années en Argentine et qui ont abouti à la légalisation de l'avortement à la fin de l'année 2020, dans un pays très catholique où l'Église, bien évidemment, était contre le projet de libéralisation de l'avortement.
Un pays où, là, vous rappelez aussi des chiffres, parlant des violences faites aux femmes, où vous rappelez qu'en 2017, ce sont les derniers chiffres, une femme était tuée toutes les 18 heures.
Exactement, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Et d'ailleurs, sur les féminicides, on peut rappeler que sur une année, il y a 87 000 femmes de tuées dans le monde. Si on le
ça, c'est l'OMS qui donne le chiffre.
On le ramène sur 100 ans, ça ferait 8,7 millions de femmes.
Fabienne Brugère, merci beaucoup. Vous co-signez donc ce livre avec Guillaume Leblanc, Le peuple des femmes, un tour du monde féministe, et c'est publié chez Flammarion. Merci à vous.
Merci beaucoup, Patricia Martin.
La semaine prochaine, nous parlerons de Jean-Paul Sartre dans l'heure philo.